les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des émissions des quartiers. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace jeune de la Madeleine pour une rencontre et peut-être même un débat, allez savoir, autour des pratiques à risque des jeunes et plus particulièrement sur la prise de risque routière et notamment sur la pratique du gymkhana. Autour de moi, pour développer ce sujet, nous avons Monsieur Nectou de la Police Nationale. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Jean-Pascal Assailly, psychologue, chercheur à la sécurité routière. C'est bien ça ?
Bonjour, oui, voilà. Tout à fait.
Bonjour à vous. La première question qui me vient, c'est cette action de prévention qui se fait aujourd'hui à la Madeleine. Vous êtes coporteur la police nationale. Est-ce que c'est important d'avoir des actions de prévention comme ça au sein du quartier sur les pratiques routières et plus particulièrement sur le gymkhana ?
Alors, cette action, elle est menée avec le PST de la Madeleine. En fait, il est parti d'un constat qui a été tenu dans le cadre du CLSPD, du Conseil local de prévention de la délinquance, qu'effectivement, le phénomène des gymkhanas devenait de plus en plus insupportable pour les habitants de la Madeleine, puisqu'il apparaît essentiellement tous les étés. L'action répressive, on en connaît la limite. La police ne peut pas faire prendre des risques inconsidérés à un conducteur de moto ou de quad. Donc on a essayé de réfléchir à des actions de prévention pour essayer de diminuer le phénomène. Et puis également peut-être, pourquoi pas, arriver à ce que le phénomène se réoriente vers des zones beaucoup moins habitées que le quartier de la Madeleine.
Monsieur Assailly, vous qui êtes sur l'étude des comportements et notamment à travers la prévention routière, est-ce que la prévention, c'est un axe fort, qui en tout cas a des résultats et un axe qui est très écouté? J'ai l'impression que la prévention routière, on en a depuis toujours. Est-ce que ça fait avancer les choses? Vous qui avez les chiffres, qui manipulez les chiffres aussi d'ailleurs.
Oui, oui, la prévention, c'est indispensable. La sécurité routière, c'est une dame qui a deux jambes, la jambe répression et la jambe prévention. On a absolument besoin de ces deux jambes quand on veut marcher. Si on coupe des deux jambes, on boite. Donc, on a malheureusement encore besoin de la répression, parce qu'on le sait bien, la fréquence des comportements dangereux ne va pas être réglée en 5 minutes. Donc, on a besoin d'un contrôle. Mais on ne peut pas se reposer uniquement sur la répression parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière le dos de chaque citoyen, ce ne serait pas souhaitable d'ailleurs. Et donc on a besoin d'éducation et de prévention, même si ce ne sont pas toujours des stratégies qui sont très très efficaces dans le court terme. Donc effectivement, des fois il faut convaincre un peu les élus, parce que si on a un horizon électoral juste à 2 ans, des fois on n'est pas très motivé pour intervenir sur le long terme, mais il est clair que beaucoup de choses peuvent être faites dans ce domaine-là. Certaines, effectivement, doivent démarrer très tôt. Moi, je pense qu'on pourrait démarrer dès la maternelle. Les attitudes par rapport aux règles, les attitudes par rapport aux risques s'installent dès l'âge de 2-3 ans. Donc la prévention, elle doit commencer dès les débuts de la vie.
Alors la prévention, il y en a depuis très longtemps maintenant, notamment sur la prévention routière. Est-ce qu'elle change de formule? Est-ce qu'il y a la prévention, est-ce que la prévention est remise au goût du jour? Est-ce que ce sont des actions plus de proximité? Est-ce que ce sont...
Alors, sur le département de l'Eure, c'est vrai qu'avant, la prévention routière, je dirais, était relativement soft. On avait des messages relativement modérés. On ne voulait pas trop choquer, on ne voulait pas être... Trop agressif dans l'image et dans l'expression.
Je me souviens d'une campagne qui disait que c'était à 3 verres qu'il fallait arrêter ou un truc comme ça. Enfin, il y a très longtemps maintenant.
Donc là, maintenant, si vous voulez, on est passé peut-être à quelque chose de beaucoup plus dur. Au-delà de 3 verres, bonjour les dégâts. On est passé là maintenant des messages localement beaucoup plus durs. Vous avez des silhouettes qui ont été installées le long des grands axes. La silhouette d'une personne dans un fauteuil roulant, la silhouette d'une petite fille sur laquelle est marqué « Maman m'a pas attaché », hein, ». Donc là, bon, on est quand même sur des messages clairs, un petit peu plus agressifs, visibles au public peut-être aussi. On a également l'opération des remises de permis de conduire en préfecture, où les jeunes conducteurs visionnent un film qui s'appelle « Insoutenable » et qui porte bien son nom. Hein. Je crois que c'est effectivement c'est l'image d'un accident de jeunes en sortie de discothèque.
Et ça se fait ça aux récupérations du permis de conduire ?
Alors régulièrement.
Ça fait longtemps que je l'ai récupéré.
Voilà. Donc, alors depuis un peu plus d'un an, là on doit être à la quatrième séance. On ne le fait pas systématiquement pour tout le permis de conduire, mais à peu près tous les 3 mois, la préfecture remet les permis de conduire délivrés sur les 15 derniers jours aux jeunes. À l'occasion d'une cérémonie qui a lieu en préfecture, le permis de conduire est remis par le préfet. La procureure est présente, on fait passer un certain nombre de messages. Un film donc est visionné, je vous ai dit, le film s'appelle Insoutenable, hein, qui montre un accident en sortie de discothèque, hein, tout simplement. Avec un jeune, enfin deux véhicules, un jeune qui a bu, sa copine lui dit tu as bu, c'est moi qui conduis, donc le premier véhicule arrive à destination, le deuxième véhicule est conduit par un jeune qui est complètement ivre, et bon, bah, effectivement, le film montre la scène de l'accident et les conséquences. Voilà, et puis à l'issue de ce. Les permis sont remis avec une petite pochette confectionnée par le Conseil général. Donc effectivement, je dirais que de plus en plus, le message prévention routière dans le département est, disons, de plus en plus explicite.
Est-ce que justement, je me retourne vers Monsieur Assaï, vous aviez quelque chose à ajouter, mais est-ce que une prévention un peu plus agressive, plus rentre dedans, est-ce que c'est plus efficace?
Oui, c'est justement là-dessus que je voulais intervenir. Parce qu'effectivement, oui, en prévention, il y a des modes, il y a une histoire. Bon, il est vrai qu'on a évolué un peu ce qu'on va dire du soft vers le hard. Ce que je veux dire par là, c'était que il y a 20 ou 30 ans, on hésitait à faire des choses dures en sécurité routière parce qu'on disait les Français sont des latins, c'est des émotifs. Si on leur fait peur, ils vont se cabrer et puis ils ne vont pas nous écouter. Bon, alors il est vrai qu'on a changé à partir des années 90-2000 parce que les bons élèves de l'Europe en sécurité routière, ce sont les Anglais et les Scandinaves. Et ces gens-là faisaient des campagnes très dures, avec beaucoup de sang sur les pare-brises, des cadavres, enfin des corps déchiquetés, etc. Et donc on s'est dit, si ces gens-là sont bons en sécurité routière et qui font des campagnes dures, nous on est mauvais et on fait des campagnes molles, imitons-les et faisons nous à notre tour des campagnes dures. Bon, alors, c'était un peu simpliste, parce qu'évidemment, il y avait peut-être bien d'autres raisons pour lesquelles les Anglais et les Suédois étaient meilleurs que nous en sécurité routière. Ça pouvait être tout simplement des questions de culture, et ce n'était pas lié au ton de la campagne. Pour autant, il peut être justifié d'avoir des campagnes dures sur deux facteurs. D'abord, il faut attirer l'attention des jeunes. C'est vrai qu'un jeune, aujourd'hui, passe 3 heures par jour devant des écrans. Il est saturé d'images, il est bombardé d'images de toutes sortes. Si vous avez une communication qui est un peu trop faiblarde, un peu à l'eau de rose, il y a évidemment peu de chances que ça va même être perçu, il ne va même pas l'apercevoir. Bon. Donc, il peut être justifié de choquer, il peut être justifié de mettre des choses dures. Finalement, la réalité de ce que c'est que l'accident, hein, bon, donc c'est quelque part justifié. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas se contenter de choquer. Il ne faut pas croire que parce qu'on devient dur, parce qu'on devient choquant, parce qu'on fait peur, on va modifier forcément le comportement, c'est plus compliqué que ça. Ça n'est qu'une étape. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, c'est que quand vous éveillez l'affect, c'est-à-dire que vous faites peur aux gens, eh bien, ils peuvent éventuellement changer, mais ce n'est pas sûr, parce qu'ils peuvent aussi s'occuper de leur peur plutôt que de leur comportement. Donc, quand vous faites peur, pourquoi pas, mais il faut tout de suite revenir derrière vers du pratique, du cognitif. Je donne un exemple, ça a bien marché avec la ceinture de sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'est pas contenté de montrer des têtes écrasées sur des pare-brises. On a dit, il y a un moyen bien simple et pas compliqué de ne pas faire comme ça, c'est de s'attacher. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc. Et ce n'est pas très compliqué de s'attacher. Donc ça a bien fonctionné, là, le fait d'avoir fait peur, parce que derrière, on a tout de suite un comportement simple à mettre, le comportement alternatif au comportement dangereux. Ça a très bien marché aussi avec le préservatif, quand il y a eu l'épidémie de sida, parce qu'on a dit, on ne s'est pas contenté de monter des cadavres de malades du sida. On a dit, il y a un moyen bien simple, c'est le préservatif de pas avoir cette maladie. Donc il y a des comportements pour lesquels le fait de faire peur marche bien parce que derrière on enchaîne sur un comportement alternatif au comportement dangereux qui n'est pas trop difficile à trouver. C'est évidemment plus difficile pour la vitesse ou pour le cannabis. Parce que pour celui qui a envie d'aller vite, pour celui qui a envie de fumer du cannabis, le comportement alternatif, c'est ne pas aller vite et ne pas fumer de cannabis. Mais c'est précisément ce qu'il a envie de faire. Donc là, on n'a pas encore forcément l'équivalent, si vous voulez, du préservatif ou de la ceinture de sécurité. C'est pour ça qu'on réussit moins bien sur la vitesse, par exemple. Parce que faire peur, c'est une chose, mais c'est quoi la lenteur ? C'est quoi ? Comment faire autrement qu'aller vite ? Il faudrait donc trouver des comportements qui puissent être gratifiants sans être obligé de rouler toujours à 180 à l'heure, et c'est plus difficile. Donc vous voyez, faire peur, pourquoi pas, pour attirer l'attention, oui, mais bien retenir cette idée toujours que ça ne suffit pas nécessairement de faire peur.
Je voulais relever deux thèmes que vous abordez là et qui ont été un peu centraux dans la présentation que vous avez fait juste avant donc cet échange au micro. Vous parlez de cannabis et de vitesse comme deux axes forts sur les, enfin, de risques routiers. Ce sont les deux axes majeurs actuellement, la consommation de drogue et puis la vitesse.
C'est l'alcool. Pour une raison bien simple. Non, bien sûr, c'est pas cannabis et vitesse. Ça reste alcool et vitesse pour une raison bien simple. Le cannabis, certes, il a beaucoup augmenté en France depuis 30 ans, mais effectivement, on le sait bien, ça reste quand même que chez les jeunes. C'est-à-dire, en gros, les gens commencent à consommer du cannabis vers 15 ans et l'immense majorité, ils arrêtent vers 25 ans. Donc, évidemment, le cannabis, ça ne concerne que les usagers de la route entre 15 et 25 ans. L'alcool, ça concerne tout le monde jusqu'à 80 ans, surtout dans un pays comme la France qui a une forte tradition alcoolique. Donc, si vous voulez, sur 4000 tués, l'alcool, c'est quand même 2300 tués par an et le cannabis, 230. Hein, donc non, c'est alcool, tout simplement parce que l'alcool concerne beaucoup plus de gens que le cannabis. Et toujours la vitesse, bien sûr, parce que vous le savez bien, malgré l'effet qu'ont eu les radars, malgré les progrès qu'on a faits sur les vitesses, la vitesse, c'est toujours le facteur de gravité de l'accident. C'est-à-dire que même s'il y a une infraction, c'est tout, quelle qu'elle soit, que ce soit alcool, cannabis ou fatigue ou feu rouge, c'est toujours la vitesse qui crée la gravité de l'accident. Donc quand les jeunes rentrent de discothèque un samedi soir, bien sûr, il y a de l'alcool et du cannabis, mais il est clair que s'ils rentraient plus lentement, au lieu d'avoir 5 tués dans la voiture, on aurait 5 blessés légers.
Je voulais venir tout simplement, mais comme on a eu un échange, comme il y a eu la présentation en amont, j'ai l'impression de revenir sur des thèmes, mais je voulais qu'on vienne sur les mécanismes de la prise de risque, et notamment chez les jeunes, ce qui était l'objet de la rencontre aujourd'hui. Vous aviez ciblé la population plus à risque entre 16 et 25 ans, avec l'accession notamment aux véhicules, les mobylettes, les choses comme ça. Comment se fait-il et est-ce que c'est une constatation que les jeunes prennent beaucoup plus de risques? Et comment ça se fait que les jeunes prennent plus de risques? Est-ce que c'est moins de contrôle de leur véhicule? Est-ce que c'est une envie de la prise de risque? Est-ce que c'est comment ça se goupille, quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de dangers chez les jeunes?
Alors, effectivement, ça va me permettre justement de dire quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Le fait de prendre des risques entre 15 et 25 ans, ça fait partie de la nature humaine. Les Égyptiens, les Grecs en parlaient déjà. Donc, ce n'est pas nouveau, si vous voulez. C'est dans le logiciel de l'espèce humaine. À cet âge-là, on a besoin de prendre des risques pour se construire, pour s'affirmer. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de la nature et non pas de l'ordre de la déviance. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on constate en ce moment, c'est un double phénomène qui a commencé déjà depuis effectivement un certain nombre d'années. C'est d'une part un phénomène purement biologique qui est que la puberté arrive de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, vous savez qu'il y a un décalage entre les garçons et les filles. Hein, les filles ont 2 ans d'avance sur les garçons. Et on commence à voir des jeunes filles pubères dès l'âge de 10 ans, ce qui pose beaucoup de problèmes aux parents d'ailleurs. Ça, c'est un phénomène purement biologique. Les causes sont mal connues, mais on suppose que ça a beaucoup à voir avec l'épidémie d'obésité, hein, vous savez qu'on est, plus gros, on est plus grand et plus gros que nos ancêtres. Donc, c'est l'alimentation, c'est ce que nous mangeons, c'est aussi les polluants dans l'alimentation. Bon, il y a des causes chimiques qui jouent sur les hormones, donc qui jouent sur le déclenchement de la puberté. Phénomène purement biologique. Il y a un phénomène, par contre, qui préoccupe plus les éducateurs, c'est ce qu'on va appeler la précocité croissante des troubles. C'est-à-dire que les éducateurs sociaux qui sont en contact des jeunes aujourd'hui nous disent. On a l'impression que les bêtises, quand ils en font, ils les font plus tôt. C'est-à-dire que ce que les générations d'avant faisaient à 14 ans, ils le font à 12 ans maintenant. Les bêtises, c'est les incivilités dans la cour de l'école, c'est les premières consommations d'alcool excessive, etc., la rencontre avec le cannabis, etc. Et donc, on a l'impression que les troubles, en quelque sorte, les problèmes de comportement, arrivent plus tôt. Et en fait, si vous voulez, les deux phénomènes sont liés. C'est à la fois parce que la puberté arrive plus tôt, que les problèmes de comportement arrivent plus tôt, pour une raison simple, c'est que la puberté, c'est quoi? C'est que la testostérone arrive dans notre cerveau, dans un endroit que nous appelons le système de récompense, et c'est les aires de notre cerveau qui gèrent tout notre rapport au plaisir, aux gratifications. Comment est-ce que je trouve du plaisir dans la vie? Certains le trouvent dans l'alcool, d'autres dans le cannabis, d'autres dans la vitesse, d'autres dans l'escalade en montagne, d'autres dans le pouvoir, etc., d'autres dans la sexualité, peu importe. c'est géré par les mêmes aires de notre cerveau qu'on appelle le système limbique, hein, l'amygdale, l'hippocampe. Et donc, ce système est, on va dire, activé plus tôt, de plus en plus tôt, puisque la testostérone et la puberté arrivent plus tôt. Donc, le système de récompense du jeune est activé plus tôt dans l'existence que par rapport à nos ancêtres.
Ce qui pourrait dire que du coup, ça s'arrête, la régulation de tout ça s'arrête plus tôt alors aussi.
Eh bien non, justement, c'est ça. Et justement, c'est ça tout le dilemme et le problème des jeunes aujourd'hui. C'est que malheureusement, pour les jeunes, il y a un deuxième système dans notre cerveau qu'on appelle le système de contrôle cognitif des récompenses. C'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Ce sont d'autres aires. Et ces aires-là, elles sont justement en charge de gérer ce qu'on appelle le contrôle des récompenses. C'est-à-dire de peser les coûts et les bénéfices de nos comportements et les conséquences possibles. C'est-à-dire, si je continue à boire, je vais continuer à avoir les effets de l'alcool. Mais d'un autre côté, je vais passer au-dessus de 0,5. Donc, je vais risquer une infraction. Donc, je vais risquer la perte de mon permis. Donc, je vais risquer beaucoup d'ennuis dans ma vie. Et au bout d'un moment, donc, on met dans une balance coût-bénéfice et on supprime le dernier verre pour ne pas avoir tous ces inconvénients. Ça, si vous voulez, dans notre cerveau, celui qui met toujours comme ça en balance les coûts, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Malheureusement pour les jeunes, ce cortex-là, il continue à ne maturer que toujours que vers 22, 23, 24 ans, pas avant. Lui, il n'a pas accéléré. Donc, si vous voulez, on va dire en gros...
Ça étend la période de risque, prise de risque.
C'est exactement ça. Le problème actuellement, c'est que ce phénomène qui est à la fois psychologique et biologique, il étend la période de risque parce qu'il étend l'adolescence, il attire d'abord son début vers le bas, où donc ils deviennent des adultes beaucoup plus tôt, sur leur rapport au plaisir, parce que là, leur système limbique, il est fini. Et malheureusement pour eux, le cortex préfrontal, il n'est pas encore ce qu'on a myélinisé. Et vous savez, les collègues qui le montrent bien, ce sont les gens qui font ce qu'on appelle de l'imagerie cérébrale, c'est-à-dire qu'ils vous envoient une simulation et qu'ils regardent les chaînes de synapses dans votre cerveau qui s'allument, donc les chaînes qui vont d'une aire à l'autre. Et bien justement, ces chaînes qui vont du système limbique au système préfrontal, c'est-à-dire qui mettent en rapport le plaisir et les décisions relatives au plaisir, ce système-là ne mature que vers 22, 23, 24 ans. Donc ça étend la période de risque, dans le sens où les jeunes prennent des risques plus tôt qu'avant, mais malheureusement, c'est pas qu'ils cherchent plus le plaisir que les adultes, c'est pas qu'ils sont plus impulsifs, c'est pas qu'ils ont besoin de plus de récompenses, c'est qu'ils mettent moins en rapport la récompense avec toutes ses conséquences possibles.
Ce sont des choses, je suppose, que vous constatez aussi, Monsieur Nectou, peut-être pas en mettant peut-être pas en ayant la même approche, mais...
Oui, on n'a pas une approche aussi scientifique, mais effectivement, on est confronté, par exemple, à des phénomènes de délinquance des mineurs qui sont parfois même liés à des comportements routiers dangereux, hein, où on se rend compte que toutes les réponses institutionnelles n'ont pas prise. Hein, nous avons des jeunes multirécidivistes, archi-connus, qui ont été déférés multitude de fois, et on voit bien que personne n'arrive à leur faire entendre raison, alors que tout le monde adulte autour d'eux essaie de les raisonner, quoi.
Mais alors, presque ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, Monsieur Assayi notamment, ce serait presque pas de leur responsabilité. On est face à des comportements qu'on dit à risque, qui sont répréhensibles, et on aurait presque un deuxième discours qui dirait, mais finalement, ils en sont pas si responsables que ça.
Disons, faut bien voir, le travail des psychologues, il est toujours de comprendre. Hein. Donc effectivement, même les pires des comportements... Un psychologue, au départ, son travail, évidemment, c'est pas de condamner, c'est de comprendre. Bon, donc les prises de risque excessives à l'adolescence, nous, au départ, effectivement, on est dans une approche de décomposer les mécanismes biologiques et psychologiques du phénomène.
Et qui sont réels, du coup, qui sont avérés. Réels.
Bon, mais ceci dit, au-delà, chacun de nous est responsable de lui-même quand même. Et je veux dire, de toute façon, le travail des policiers et le travail des juges ne peut pas être celui des psychologues, c'est normal. Chacun de nous doit faire son travail. On peut pas demander à un policier, à un juge, de fonctionner comme un psychologue, et sinon, il remplirait pas sa fonction. Nous sommes responsables de nos actes. Quand un jeune commet un délit, il est responsable de son délit. On peut pas, pour nous, il ne s'agit pas d'excuser, hein, il s'agit d'analyser. Mais la loi est la même pour tous. Et je veux dire, si elle n'est pas respectée, on est obligé de...
Nous ne sommes pas délinquants.
C'est une minorité, de toute façon.
Voilà. Tous n'ont pas des comportements déviants sur la route.
Vous me disiez justement tout à l'heure, avant l'enregistrement, là, Monsieur Nectou, qu'il y avait quand même deux façons d'aborder les choses. Enfin, il y a le manquement à la règle, et puis il y a le côté moral aussi. Au bout d'un moment, on peut transgresser la règle par omission, par inconscience, et parfois on peut le faire en toute connaissance des choses. Enfin, ce sont des choses différentes. Et...
Oui, alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, souvent les gens n'ont pas compris cette notion qui est très juridique. Le code de la route, c'est du contraventionnel. Contraventionnel, ça veut dire quoi ? C'est une règle de vie en société qu'on respecte et sur laquelle on n'a pas à se poser la question si on doit la respecter ou pas. Il n'y a pas d'élément moral. Hein. Les juristes connaissent bien cette notion. Lorsqu'on commet un délit, lorsqu'il y a un crime, il y a un élément moral. Le juge va chercher s'il y a un élément moral, si l'auteur a vraiment voulu ça ou autre. lorsqu'on transgresse une règle du code de la route, on transgresse une règle du domaine de la contravention. Hein, donc, en fait, on paye une amende parce qu'on n'a pas respecté une règle sur laquelle on n'a pas se posé de questions. Simplement, elle est là pour nous permettre de vivre en collectivité, de vivre en société. On a un feu rouge en pleine zone désertique. Il est 2h du matin, on ne voit aucune voiture à proximité. On n'a pas à le franchir. Voilà, c'est ça. De même que la politesse existe pour faciliter les relations entre les gens. Hein, on respecte un minimum de politesse. Sans se poser trop de questions, parce qu'il faut pour les relations sociales, il y a la politesse, et bien je dirais que le code de la route, c'est pareil. C'est une règle qu'on respecte.
Je voulais aborder un autre thème, et notamment qui a été présenté par M. Assayi. Le fait des comportements à risque, vous nous disiez que c'était pas lié à un milieu social, que c'était pas lié forcément à une... Enfin, que c'était pas lié à un milieu social, mais que c'était plutôt lié à la culture, au sexe et l'influence des parents, notamment. Voilà, je vais reformuler gentiment. Hein. Comment est-ce que, évidemment, est-ce qu'il y avait un stéréotype de personnes sujets aux conduites à risque qui déborderaient de la conduite à risque expérimentale? Sinon, je reformule avec un truc mieux. Hein.
Non, vous avez bien, tout à fait bien perçu ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est que dans les comportements dangereux des jeunes, on est beaucoup plus, finalement, dans la psychologie que dans la sociologie. C'est-à-dire, on est beaucoup plus dans la façon dont la famille fonctionne, plutôt que de savoir vraiment de quelle origine sociale vous êtes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre 15 et 25 ans, les jeunes des milieux favorisés, manifestement, sont autant en danger que les jeunes de milieux défavorisés. Sur les sujets de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur les consommations d'alcool excessives, de cannabis, sur les questions de fatigue, sur les questions de non-respect des règles, sur les questions de tentatives de suicide, sur les questions de dépression et d'anxiété, et sur les questions d'accident de la route, eh bien, on voit les jeunes de milieux favorisés tout autant en danger que les jeunes des milieux défavorisés. Et on veut le pointer, ça, parce qu'on a toujours trop tendance à être toujours focalisé sur les jeunes de milieux défavorisés, en pensant que c'est eux qui cumulent les problèmes. Là, c'est vrai dans l'enfance. Chez les enfants, effectivement, on a plus de problèmes de santé et de problèmes scolaires chez les enfants de milieux défavorisés. C'est vrai chez les adultes, où il y a des différences d'espérance de vie entre cadres et ouvriers, où les métiers produisent des dégâts différents. Mais par contre, entre 15 et 25 ans, ce n'est pas votre milieu social qui est vraiment influent. C'est-à-dire qu'effectivement, si les jeunes de la bourgeoisie ont autant de problèmes que les autres, c'est bien donc que ce n'est pas l'argent qui protège. Et effectivement, joue beaucoup plus les problèmes affectifs, c'est-à-dire les relations avec son père, les relations avec sa mère, donc qui peuvent très bien être bonnes dans un milieu pauvre, joue beaucoup plus, bien sûr, la question du sexe, c'est-à-dire la différence garçon-fille, parce que les jeunes hommes prennent beaucoup plus de risques que les jeunes femmes, et ça dans tous les milieux. Donc la différence garçon-fille est beaucoup plus importante. Et ce sont effectivement des facteurs qui jouent plus sur le risque que l'origine sociale.
Dans ce que vous disiez tout à l'heure, j'entendais quasiment que finalement on conduit comme ses parents. Enfin, en tout cas, on a des comportements routiers assez identiques à ses propres parents, ce qu'on a observé durant son enfance, sa jeunesse.
On n'est pas exactement le clone routier de son père, mais disons quand même qu'on a pu montrer, dans d'autres pays surtout, parce que chez nous, si vous voulez, quand un jeune a un accident, les policiers ne vont pas enquêter sur la conduite automobile des parents. Hein, bon, on n'en est pas là. Mais il y a des pays comme les États-Unis, le Canada, où en fait, votre assurance est réunie toutes les données. C'est-à-dire que votre assurance, elle sait quand votre père a passé son permis, les points qui lui ont été retirés, les accidents qu'il a eus. Enfin, on sait à peu près tout sur les carrières du père, de la mère, du fils, de la fille. Et toutes les bêtises qu'ils font sur la route, c'est enregistré dans le même ordinateur. Donc, ce n'est pas bien difficile de croiser, évidemment, quand c'est dans le même ordinateur. Et ce qu'on voit bien, finalement, c'est qu'il y a une forte transmission intergénérationnelle de l'accident et de l'infraction. C'est que pendant 18 ans, on ne conduit pas, mais le style de conduite que les parents donnent à voir va être fortement influencé et imité. Et l'enfant, pendant 18 ans, sur la banquette arrière, il observe tout ce que son père et sa mère font par rapport à la vitesse, au non-respect des règles. Et il aura tendance, effectivement, à reproduire ce modèle-là. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des transmissions intergénérationnelles.
C'est déjà comme une espèce de norme de conduite, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en voiture.
C'est une norme et c'est quelque chose évidemment qui est un exemple particulier mais qui va au-delà de la sécurité routière. C'est vrai aussi pour les consommations d'alcool, de cannabis, de respect des règles dans d'autres domaines de la vie. La façon dont nos parents se comportent nous influence beaucoup ensuite dans nos propres comportements.
tout à fait.
Je voulais revenir sur un élément que nous échangions avant de passer au micro. C'était par rapport à l'action de prévention, et finalement le message de mettre en danger les autres était passé beaucoup plus facilement que le message de se mettre en danger soi-même sur les conduites à risque.
C'est ce que j'ai voulu dire, effectivement. Moi, j'ai souvent interrogé des jeunes pour évaluer des actions de prévention, leur demander est-ce qu'ils étaient d'accord, pas d'accord, ce qu'ils en pensaient, si c'était eux qui avaient mené l'action, comment ils auraient fait. Et ce que souvent me disent les jeunes, c'est que pour soi-même, agiter la peur de la mort ou du handicap en disant si tu continues à faire ces bêtises, tu vas mourir ou tu vas finir ta vie dans un fauteuil roulant, c'est-à-dire agiter des conséquences pour soi, eh bien, ils n'y sont pas très sensibles. Je veux dire, c'est pas ça qui les arrête de continuer un comportement dangereux s'ils y trouvent quelque chose. Par contre, effectivement, planter leur copain, planter leur meilleur ami, créer un dommage irréversible, grave, un handicap chez cette personne, ça leur semble beaucoup plus important, parce qu'après, il y aurait une culpabilité, bien sûr, qu'il faudrait affronter toute sa vie. Et ils se disent plus prêts à se calmer, ils se disent plus prêts à respecter des règles pour cette question de ne pas faire du mal à autrui, plus que pour eux-mêmes, finalement.
C'est quelque chose que vous ressentez aussi, Monsieur Nectou, dans vos actions de prévention?
Alors effectivement, c'est quelque chose, je ne sais pas si on le ressent, c'est quelque chose effectivement qu'on utilise pour faire passer des messages. Vous savez qu'on intervient beaucoup dans les établissements scolaires. Et effectivement, ce type de message est beaucoup mieux perçu par les jeunes qu'un message normatif classique du policier qui dit « on ne doit pas faire », surtout à un jeune adolescent qui va chercher justement à transgresser la règle.
Pour terminer, est-ce que si finalement on n'avait pas, si par exemple, je ne sais pas, on avait accès à des circuits automobiles fermés, à des terrains de cross ou autre chose, est-ce que finalement ça suffirait par exemple à pallier notre envie de mise en danger ou en tout cas celle des jeunes? Est-ce que finalement avoir des lieux aménagés pour, je veux dire pas pour transgresser, mais pour trouver ses limites, est-ce que finalement ça pourrait être une solution pour limiter la prise de risque routière, d'après vous, je sais pas.
Pour certains.
Est-ce qu'on a besoin d'un endroit pour. Est-ce que ça suffirait?
Je vais répondre 30 secondes après, bien sûr. Je pense que pour certains jeunes, ça serait utile, effectivement, d'avoir un endroit pour des jeunes qui vont aller vers une activité sportive, qui vont vouloir effectivement pratiquer le motocross. Vers des jeunes
mais sans forcément qu'elle soit réglementée, parce que.
Oui, non, mais aussi voilà, des jeunes qui ont besoin de bosses, de vouloir se défouler à travers la moto. Dans le phénomène des gymkhanas, on est dans une autre dimension. On est dans une dimension aussi de s'accaparer un territoire, de montrer que c'est son territoire. Donc là, je ne pense pas que le fait qu'il y ait des bosses à proximité du quartier fait que certaines personnes aillent sur ces bosses. Ce qu'ils veulent, c'est traverser la Madeleine en faisant un whaling pour que tout le monde les voit. Donc on est sur un autre type de comportement. Mais tous les publics ne sont pas les mêmes aussi. Il faut aussi savoir s'adapter.
Oui, enfin, je dirais, voilà, c'est un serpent de mer qui revient depuis longtemps. On se l'est longtemps posé à propos des deux roues, parce que c'est un engin quand même qui est dangereux. Il y a beaucoup de jeunes qui se font mal en deux roues. Donc, ça fait longtemps qu'on a évoqué l'idée des circuits pour motards, en se disant que s'ils peuvent faire de la haute vitesse là-dessus, ils le feront plus ensuite sur les départementales et les nationales. On a évoqué aussi l'idée de terrain d'aventure, un peu comme les gens qui font du saut élastique, où effectivement, on peut prendre des risques, mais dans des environnements un peu plus protégés, où si vous tombez, vous faites moins mal, etc. Je dois dire qu'effectivement, du point de vue du loisir, ça me semble une bonne idée, si vous voulez, parce que c'est un besoin absolument naturel entre 15 et 25 ans. C'est absolument pas déviant de rechercher des sensations. De prendre des risques est quelque chose qui est naturel et qui est absolument pas déviant. Bon. Pour autant, je dois avouer qu'on n'a jamais pu vérifier que ces gens-là avaient moins d'accidents ensuite dans la vie réelle. Parce que d'abord, ce serait très compliqué à montrer. Parce que pour certains, ça ne règle pas le problème. S'ils ont un rapport au risque comme ça, qui est un peu addictif, qu'ils ont besoin, si on entretient le besoin, eh bien, peut-être qu'il continuera à être présent aussi sur les routes dans la vie. Donc, on n'est pas sûr que... En tout cas, ça ne peut pas être une solution à grande échelle. Ça peut sans doute être bénéfique pour certains jeunes, effectivement. Mais
je pas une solution a priori.
Voilà, je ferai pas une solution générale pour
qui ferait baisser les prises de risque.
En tout cas, qui réglerait le problème des 4000 tués et des 8 millions de jeunes Français. Voilà.
Je me retourne vers Maxime qui a un micro. Est-ce que quelqu'un aurait une réaction, une intervention, une question?
Profitez-en.
Voilà.
Quelqu'un veut réagir? Non. Et moi, en tout cas, il y a un truc que vous avez dit, c'est vous avez parlé du genre tout à l'heure et comme quoi les parents étaient passés en tête au niveau de l'éducation de leurs enfants. Mais la question, c'est aussi, est-ce que les médias et le business un petit peu commercial n'influent pas sur le genre et n'influent pas du coup sur les parents et leur façon d'éduquer? Puisque si on prend les catalogues de jouets au moment de Noël, qui on voit porter à la ceinture des pistolets, qui on voit au volant des voitures ou sur les guidons des motos, c'est plutôt les garçons. Et est-ce que ça aussi, ça influe pas un petit peu dans l'éducation au niveau du genre?
Bien sûr, c'est tout à fait d'accord qu'il n'y a pas que les parents et ce qu'ils disent ou font dans la famille. Cette adhésion au stéréotype de sexe, c'est-à-dire le fait de lier masculinité et agressivité, prise de risque, compétition, etc., c'est déjà présent dès 2-3 ans. Et effectivement, dès l'âge de 2-3 ans, les enfants savent très bien ce que c'est qu'un jouet de fille, un jouet de garçon, et ils savent expliquer pourquoi c'est un jouet de garçon et un jouet de fille. Donc ce lien avec la prise de risque et de l'agressivité, il est perçu très tôt. Et donc effectivement, les enfants sont assez conscients quelque part de cette manipulation. Hein. Mais elle est là, vous avez raison, bien sûr. Alors maintenant, effectivement, est-ce qu'il faut tout aplanir ? On ne va pas supprimer les sexes, enfin je veux dire la différence des sexes, parce que si on a tous les mêmes vêtements, tous les mêmes jouets, tous les mêmes... Bon, je veux dire, je pense que le monde est aussi agréable tel qu'il est, parce qu'il y a des hommes et des femmes, et qu'il y a, il y a du masculin, du féminin, et qu'il y a de l'interaction, qu'il y a de la différence, qu'il y a de l'opposition, qu'il y a du frottement, donc ça fait partie de la vie. On ne va pas transformer les petits garçons en petites filles. Mais c'est cette adhésion. Mais par contre, je suis d'accord avec vous que les jouets font partie, comme les jeux vidéo, comme les images qu'ils voient à la télé, d'un ensemble de conditionnements, hein, qui est effectivement le fait d'exagérer certains traits de la masculinité, ceux qui ont trait notamment à l'agressivité et au non-respect des règles. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à modérer cette masculinité exagérée, on en verra les effets malheureusement tragiques sur les mortalités des hommes, parce qu'après, ils en payent lourdement le prix.
Eh bien, à moins que vous ayez une information essentielle à rajouter, je vais vous remercier d'être passé par nos micros, monsieur Nectou de la Police nationale et monsieur Assayi, psychologue et chercheur en sécurité routière. Merci à vous d'avoir été parmi nous.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.